Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans Amos chapitre 4, verset 12, il y a ce verset qu'on rencontre souvent, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Ce verset, il est très connu, il est souvent cité hors contexte, mais clairement, on comprend qu'il nous invite à être responsable dans notre préparation à rencontrer Dieu. Alors, quand est-ce qu'on va rencontrer Dieu ? On va certainement le rencontrer après cette vie, on va certainement le rencontrer pour le jugement, on va certainement le rencontrer aussi dans notre vie de tous les jours. Ce matin, alors qu'on est réunis ensemble, pourquoi est-ce qu'on est venu là ? Ben, on vient là parce qu'on croit que nous sommes dans la présence de Dieu et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons rencontrer Dieu. En fait, pour rencontrer Dieu, il faut bien qu'on soit conscient qu'il n'y a pas besoin d'être mort. Pour rencontrer Dieu, il faut être bien vivant. Et pour se préparer à le rencontrer, c'est encore plus vrai, il faut être bien vivant. Alors, si Amos nous conseille de nous préparer à rencontrer Dieu, eh bien c'est que lui-même est de bons conseils. En fait, c'est tout le thème du livre d'Amos qu'on a déjà eu l'occasion de parcourir dans l'étude biblique il y a 10 jours et que j'aimerais reprendre avec vous aujourd'hui. Alors d'une manière un petit peu différente pour que ceux qui étaient là à l'étude biblique puissent recevoir quelque chose et puis aussi pour que tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir vous puissiez aussi découvrir à quel point Amos est un homme assez particulier et qui a de bons conseils à nous donner pour savoir comment nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Est-ce qu'on peut être sensible au message d'Amos sans savoir qui il était? Donc on va commencer par là, on va commencer par savoir qui était Amos, qui était ce prophète dans son époque. Ensuite on verra son message, les avertissements qu'il a apportés au peuple d'Israël, et puis on terminera par les conseils spécifiques qu'il a donnés pour rencontrer Dieu. Alors tout d'abord, Amos, qui était-il? Amos, c'est un homme appelé par Dieu. Alors, un homme appelé par Dieu, ça on le voit clairement. Alors, je ne vais pas lire un passage d'Amos, mais on va faire un survol du livre ensemble. Donc, il va falloir vous accrocher un petit peu si vous voulez suivre dans votre Bible. Et j'aimerais commencer simplement par vous lire le chapitre 1, verset 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Donc déjà, tout de suite, le paysage est planté, on apprend qu'Amos était un berger. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un berger, mais c'est l'un des bergers de Tekoa. Ce qui signifie que c'est pas le berger, c'est un des bergers, c'est un berger parmi d'autres. Et d'entrée de jeu, Amos nous est présenté comme en fait quelqu'un qui a un métier qui n'est pas très original à l'époque, qui est plutôt commun, et même qui ne lui suffit peut-être pas pour vivre, parce qu'au chapitre 7, on apprend aussi qu'il cultive des sycomores. Donc c'était un polyactif, un peu comme aujourd'hui les agriculteurs qui ont plusieurs activités, qui font aussi chambre d'hôtes, etc. Certainement Amos avait plusieurs cordes à son arc pour pouvoir finir les fins de mois. En plus, on apprend au chapitre 7, au verset 14, qu'Amos n'est ni prophète, ni fils de prophète. Ce qui signifie qu'Amos, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, n'a pas hérité de sa vocation par son père. Traditionnellement, jusqu'à 150 ans en arrière, quand le père faisait un métier, le fils faisait le même. Quand le père était berger, le fils était berger. C'est certainement ce qui s'est passé avec Amos. Mais en général, quand le père était prophète, il y avait de fortes chances pour que le fils soit aussi prophète. Or, ce n'était pas le cas ici pour Amos, d'autant plus qu'il n'a pas pu aller à l'université des prophètes. On voit qu'il n'a pas, il n'est pas fils de prophète, et dans une autre version, s'il n'est pas allé à l'école des prophètes. Mais alors, qui est cet Amos et qu'est-ce qu'il vient faire au milieu des Écritures? Comment un berger, une personne assez insignifiante dans l'histoire de l'humanité, peut-il avoir eu sa place et un livre entier dans les Écritures? Alors Amos, il faut bien comprendre que si c'est un prophète un peu particulier, c'est en fait un prophète qui est objectif dans ce qu'il va dire. Pourquoi? Parce que déjà, au chapitre 7, verset 15, il est dit « L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Amos ne s'est pas autoproclamé prophète. C'est Dieu qui l'a pris, c'est Dieu qui l'a choisi. Derrière le troupeau. Il faisait son boulot, vit tous les jours, vie normale, et Dieu lui a dit, Dieu l'a interpellé et pour qu'il aille de l'avant. On voit aussi que c'est marqué, l'Éternel m'a dit, qu'est-ce que Amos cultivait dans sa vie de tous les jours, il cultivait pas que des sycomores, mais il cultivait aussi sa relation avec Dieu. Il était connecté, Dieu lui parlait, et certainement que cette fois-ci, Dieu lui a parlé de manière spécifique sur quelque chose de spécifique qu'il attendait d'Amos. Ensuite, Dieu l'appelle à prophétiser à mon peuple d'Israël. Et là, c'est assez intéressant parce que Amos vient de Tekoa, qui est un village au sud de Bethléem. Bethléem, c'est près de Jérusalem. Donc, il est dans le royaume de Juda. Or, à l'époque, Israël et Juda sont deux royaumes distincts qui ne s'entendent pas très bien. Et en fait, Dieu demande à cet habitant de Juda d'aller parler dans le royaume d'Israël. Et ce détail est très important parce que ça veut dire que Amos ne va pas couper les cheveux en quatre, il ne va pas brosser les gens dans le sens du poil, il n'a aucun intérêt, il va dire simplement ce que Dieu lui dit de dire et il va être clair et franc dans son message. Amos est donc un prophète objectif qui a un message clair. Mais c'est pour cela aussi que son message est un message convaincant, parce qu'il est lui-même convaincu. Tout au long du livre d'Amos, on voit qu'il a eu des visions, qu'il a des révélations. Dieu donc lui parle, Dieu se révèle à lui et lui donne un message à apporter. À tel point que ce message, il va l'apporter à Bethel même. Bethel, en fait, Bethel, c'est un peu la Jérusalem du royaume du Nord. Bethel, c'est le lieu central de toutes les actions religieuses du royaume du Nord. Et donc, aller parler dans ce lieu-là, c'est vraiment se poser dans le carrefour du royaume, là où tous les gens viennent pour offrir des sacrifices et pour la vie religieuse du royaume. Donc, Amos est assez culotté d'aller là, mais il sait que c'est là où il va être entendu et c'est là où les gens vont l'entendre. Amos, en fait, il est assez impressionnant parce que c'est pas un grand leader, c'est pas quelqu'un qui a reconstruit les murailles du royaume, c'est pas un chef de guerre. Aujourd'hui, ce serait pas un grand patron des médias, ce serait pas le créateur d'un réseau social entre bergers de Juda qui l'aurait rendu multimilliardaire. Amos, c'est quoi? Amos, c'est toi. Amos, c'est moi. Un homme qui vit jour après jour, qui a un travail lambda, comme des milliers, des millions de personnes dans ce pays, sur cette terre. Amos, c'est qui? C'est rien. Ok? Je suis prof. Est-ce que dans 100 ans, on citera dans les journaux Colin Revol, qui était prof dans un lycée à Lyon? Tout le monde m'aura oublié. Aucune trace dans l'histoire. Insignifiant. Mais finalement, c'est notre lot à tous. On est, on vit, on meurt, et après, quelqu'un d'autre nous remplace, et la vie continue, et puis on nous oublie. Réfléchissez combien de personnes sont capables de dire quel a été le métier de votre arrière-arrière-grand-père. Alors bien sûr, il y a quelques exceptions, mais il y a très peu de gens qui sont capables de dire ça. Amos, c'est toi, Amos, c'est moi, un homme dont la vie et la vie sont apparemment sans importance. Ça, c'est à nos yeux. Mais Amos, aux yeux de Dieu, c'est qui? Aux yeux de Dieu, Amos, c'est un homme qui va servir de canal, qui va servir de porte-parole d'un message qui va toucher tout un peuple. Tout ce que Dieu a choisi pour parler au peuple d'Israël et l'encourager à revenir à lui, c'est un homme. Ce n'est pas un événement extraordinaire, ce n'est pas des choses formidables, c'est un homme. Un homme et sa parole. Souvent les prophètes, on les voit accompagnés de miracles, on les voit accompagnés d'événements extraordinaires. Amos, il n'y a rien de tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est le message qu'il apporte. Et il n'y a aucun miracle qui l'accompagne, il n'accomplit rien de spécial, rien d'extraordinaire. Amos, c'est toi, c'est moi, pour réaliser qu'aux yeux de Dieu, c'est pas l'importance de notre place sociale qui compte, mais c'est l'importance de la place où est notre cœur. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu s'intéresse à moi, Dieu s'intéresse à toi, tel que tu es, dans la vie de tous les jours. Et donc, que serait ta vie si elle était entre les mains de Dieu? Quelle différence cela ferait que ta vie soit entre les mains de Dieu? Amos nous rappelle clairement que c'est bien plus important de compter aux yeux de Dieu que de compter aux yeux des hommes. Et je trouve cette pensée tellement encourageante. Parce que combien de fois cela peut être décourageant lorsqu'on travaille jour après jour dans la routine quotidienne et qu'on se plaint parce que notre patron ne nous considère pas à notre juste valeur, parce que nos idées ne sont pas acceptées, parce que il n'y a pas de reconnaissance ou pas d'avenir dans le métier qu'on fait. Mais finalement, est-ce que l'essentiel est bien là? L'essentiel, avant tout, c'est qu'on compte aux yeux de Dieu. Et vous comprenez à quel point Amos a un message extraordinaire. Il arrive devant le peuple d'Israël, convaincu que ce qu'il a à dire, mais c'est Dieu qui lui dit de le dire, et que c'est quelque chose qui peut transformer le peuple d'Israël. Son nom d'ailleurs signifie « porteur de fardeau ». Amos, c'est le porteur de fardeau. Il a quitté le royaume de Juda, il a été dans le royaume d'Israël pour apporter un fardeau. Alors, quel est son fardeau? On va entrer un petit peu plus spécifiquement dans son message. Amos a un fardeau qui est un signal d'alarme. Ce signal d'alarme, c'est à la fois un signal universel et un signal pour le peuple de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que c'est un signal universel? Parce que si vous regardez dans les chapitres 1 et 2 d'Amos, il y a 6 peuples qui reçoivent un message spécifique. Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab, plus le royaume du Juda et le royaume d'Israël. Donc il y a 8 peuples qui reçoivent un message spécifique. C'est pas seulement un message qui est adressé au peuple d'Israël, c'est un message aussi qui est adressé aux voisins d'Israël. Et si vous lisez un petit peu les Écritures, vous réalisez que ces voisins d'Israël sont pas en très bon terme avec Israël, ce sont toujours des ennemis d'Israël. Par conséquent, Amos a un message qui est vraiment universel, qui concerne à la fois le peuple de Dieu et à la fois ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Deuxième chose intéressante, c'est que le message d'Amos arrive dans un temps de prospérité. Amos 3, verset 15. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y avait des maisons d'hiver, il y avait des maisons d'été, des palais d'ivoire, il y avait des maisons des grands. Verset chapitre 6, verset 4, il y avait des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Chapitre 6, verset 6, ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et il ne s'attriste pas sur la ruine de Joseph. En fait, on est certainement dans une période d'apogée du royaume d'Israël. Si vous allez dans le livre des rois, qui est le pendant historique d'Amos, le roi, en fait, qui est au pouvoir au temps d'Amos, c'est un roi qui va agrandir les frontières du royaume, qui va agrandir les frontières d'Israël. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on est bien dans une période de prospérité extraordinaire. Et voilà que ce prophète arrive en annonçant la chute du royaume et annonçant aux gens que tout va mal. Alors, est-ce qu'il a rien compris? Je pense que bien souvent, c'est nous qui avons du mal à comprendre et à faire le lien entre notre prospérité matérielle et ce que Dieu a à nous dire. En général, on associe souvent l'aisance matérielle ou la prospérité avec la qualité de notre vie. On a tendance très souvent à faire ce raccourci, à dire oui, bon, ça va, j'ai un bon salaire, je m'en sors bien, je peux avancer dans la vie, mais bon, si c'est normal, regardez comment ma vie est en ordre et comment je me comporte par rapport à mes contemporains, par rapport aux gens que je croise. En réalité, c'était un petit peu l'argument que le peuple d'Israël invoquait. Au chapitre 5, verset 14, Amos leur dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. » Autrement dit, ce peuple d'Israël disait « Mais regarde Amos, tu nous reproches des choses, mais regarde comme tout va bien. C'est que Dieu est avec nous, c'est que Dieu nous bénit, il n'y a pas de raison que tu viennes remettre en question notre manière de vivre. » Mais en fait, le problème, c'est que ils utilisent ce prétexte de la prospérité comme un mauvais prétexte. Parce que ce ne sont pas les circonstances prospères ou les circonstances de réussite dans ma vie qui sont la preuve que tout va bien dans ma relation avec Dieu, que tout va bien dans ma relation avec d'autres personnes autour de moi. Et à l'inverse, c'est pas parce que j'ai des conditions de vie, des circonstances de vie difficiles, compliquées et que je galère, que pour autant, je peux pas avoir une bonne relation avec Dieu et que je ne peux pas avoir une bonne relation avec les personnes autour de moi. En réalité, on pense souvent que c'est très simple de se tourner vers Dieu quand tout va mal. Et peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas, vous êtes dans une situation difficile, et vous vous tournez vers Dieu. Et c'est normal, parce que c'est quand on n'a plus d'autre solution que tout d'un coup on réalise que la solution elle va venir d'en haut. Mais il y a aussi des personnes pour qui tout va bien, même plus que bien, et qui ressentent le besoin de se tourner vers Dieu. Simplement par la réflexion, simplement par la reconnaissance aussi pour ce qu'il fait, par la confiance en lui. Et je crois que on doit vraiment réaliser que les moments de prospérité dans notre vie sont des moments extraordinaires où on peut rendre grâce à Dieu. Et hier, j'étais sur mon vélo et je réfléchissais au fait que j'avais aucun problème de santé en ce moment. Et j'étais là, et tout d'un coup, je me suis dit, mais merci Seigneur, c'est formidable. Et ça m'a poussé à le remercier. Il y a un joueur de Lyon, de l'Olympique Lyonnais, hein, qui a joué à Lyon de 2000 à 2007, je crois, c'est ça, qui s'appelait Cassapa, hein, c'est un Brésilien, et en fait, s'est converti au contact d'autres joueurs qui étaient chrétiens. Et il s'est converti à Lyon, d'ailleurs, avec Emilson, qui était aussi un international brésilien. Et Cassapa, il dit que le football lui avait donné une aisance financière enviable. Hein, 200 000 euros par mois, quelque chose comme ça, ça va. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il affirme avoir retenu la leçon. Mon cœur ne réside pas dans l'argent, et le Seigneur sait où je l'ai placé. Je comprends qu'il soit plus difficile de croire quand on n'a rien. Mais moi, c'est dans la parole. Mais moi, c'est sans la parole que je n'ai rien. Ce gars qui gagne des dizaines ou des centaines de milliers d'euros par mois, il dit, c'est sans la parole que je n'ai rien. Voilà quelqu'un qui a fait la part des choses entre son abondance matérielle, sa prospérité et ce qui compte vraiment dans la vie. En fait, le peuple d'Israël est dans un temps de prospérité extraordinaire. Tout va bien, mais le problème, c'est ce qu'ils font de leur prospérité et comment ils l'utilisent. En fait, dans chapitre 2, verset 6, on voit qu'un pauvre est vendu pour une paire de souliers. On voit un peu plus loin que les déchets du blé, c'est-à-dire les gousses qui sont vides et dans lesquelles il n'y a plus rien ou quasiment plus rien, sont vendus sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens tellement pauvres que c'est tout ce qu'ils peuvent acheter. C'est le plus misérable du misérable qui peut se trouver pour manger. En plus, cette religion qu'ils pratiquent à Bethel, là, c'est une religion qui est sans spiritualité en réalité. Comment une religion peut-elle être sans spiritualité? Tout simplement parce que à Bethel, il y avait un veau d'or qui avait été installé par un roi pour être sûr que les gens n'aillent pas à Jérusalem. Les gens étaient obligés de rester donc à Bethel et ils sacrifiaient en fait, certes à l'Éternel, mais par l'intermédiaire de ce veau d'or. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Et donc ce peuple, en fait, pratiquait une religion qui était loin de ce que Dieu voulait qu'il pratique. Amos, chapitre 4, verset 4, il dit « Allez-y, offrez vos sacrifices chaque matin, offrez vos dîmes tous les trois jours, apportez vos offrandes, etc. Mais Dieu n'en a rien à faire. » Et ça me fait penser à une situation que je vis un peu au travail. Bien souvent, j'ai des collègues qui se permettent de très facilement rire de Dieu, qui se permettent de raconter des blagues sur la Bible, etc., sans que ça leur pose aucun problème. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a une telle facilité à se moquer de Dieu? Et je pense que une grande partie est due à l'ignorance de la parole, bien sûr, mais il y a aussi une grande partie qui est due à notre histoire. Et qu'est-ce qu'on trouve dans notre histoire? On trouve une église qui s'est permis justement de soutenir une société sans justice et une religion sans spiritualité. Comme quoi, si nos actes ne sont pas en accord avec notre foi, et si notre foi n'est pas en accord avec nos actes, les gens pourront se moquer de Dieu en prenant notre exemple. Et là, c'est quelque chose, un avertissement à prendre hyper au sérieux. Comme le peuple d'Israël a été averti, nous sommes aussi avertis qu'on ne peut pas se permettre de dire « je suis chrétien » et puis de vivre à l'inverse de ce que nous annonçons. Il faut que nos actes et notre foi s'accordent. Et une solution pour ça, c'est de venir à Dieu et de se repentir régulièrement. Qui dit repentance, dit reconnaître que je ne suis pas parfait, que j'arrive pas à vivre selon les standards que Dieu vit, mais que je lui fais confiance pour me pardonner, pour m'aider à progresser. Et c'est là où la présence de Dieu commence à se faire sentir dans ma vie. Pour terminer, Amos, certes, un signal d'alarme pour le peuple d'Israël, signal d'alarme qui est aussi valable pour nous, mais Amos a aussi un message d'espérance. Vous savez à quoi sert un courtier en assurance vie ou un courtier pour les prêts immobiliers? Le courtier, vous l'appelez et puis ensuite, il va contacter toutes les banques pour essayer de trouver la meilleure offre pour votre prêt immobilier. Alors, c'est un métier... Et du coup, ça permet de gagner du temps. Mais je crois qu'Amos, c'est un peu notre courtier en espérance vie. Parce que Amos, c'est celui-là qui va nous donner les bons conseils pour savoir comment nous préparer à rencontrer notre Dieu. Alors, on a beaucoup parlé de commencement aujourd'hui, et j'aimerais aussi revenir au commencement. Le premier verset de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et ce verbe « créa », il revient à 4 fois dans le chapitre 1 de la Genèse, et il est très important. Parce qu'en fait, dans ce verbe « créa », on a la matrice proposée par Amos pour nous préparer à rencontrer Dieu. Je m'explique. « Créa », en fait, c'est l'initiale de 4 mots. D'abord, le mot « c'est » comme « cherchez-moi ». « R » comme « recherchez le bien ». « E » comme « espérez en moi ». Et « A » comme « adorez-moi ». Alors, « c'est » comme « cherchez-moi ». Pourquoi ? Parce que Amos, chapitre 5, verset 4, va nous dire « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Et j'aime cette phrase parce que ici, c'est marqué « cherchez-moi et vous vivrez ». Autrement dit, ça nous appelle à réfléchir à qui est ce « moi ». Qui est derrière ce « moi » ? C'est l'Éternel ? Mais qui est l'Éternel? Mais l'Éternel, c'est, en réalité, c'est un terme qui a été ajouté dans notre version, mais derrière ce mot éternel, c'est le mot Yahvé, que les juifs n'osent pas prononcer par respect pour Yahvé, pour Dieu. Et ce Yahvé, c'est, en fait, ça se traduit par je suis. Autrement dit, cherchez-moi, moi qui suis, je suis. Et je suis quoi? Ben, je suis tout. Je suis celui qui peut vous sauver, je suis celui qui peut vous satisfaire et qui peut surtout nourrir votre cœur. Regardez au chapitre 8 et au verset 11. Chapitre 8, verset 11. Et j'aimerais lire là, les versets 11 à 13. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Et là, on se dit, il faut lire la suite pour bien comprendre. « Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. » Quelle métaphore! Ici, on a des gens qui meurent de soif, non pas parce qu'ils n'ont rien à manger, mais c'est parce qu'ils ont envie d'entendre la parole de Dieu et qu'ils ne peuvent plus l'entendre. Et c'est dramatique. Aujourd'hui, nous pouvons entendre la parole de Dieu, mais quelle est notre faim et quelle est notre soif? Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, il a dit, mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils verront Dieu. Quel est ta faim et quelle est ta soif d'entendre la parole de Dieu? Oui. Car ils seront rassasiés. Quelle est ta faim et quelle est ta soif d'entendre la parole de Dieu? Moi, c'est une prière que j'ai à cœur de faire et que je fais régulièrement. Seigneur, donne-moi faim et soif de la parole de Dieu. J'ai lu un livre là à l'automne qu'on vous avait présenté. Il s'appelle Crazy Love. Et ce livre est particulièrement encourageant pour développer notre faim et notre soif de Dieu. Et il cite à l'intérieur un auteur qui s'appelle John Piper et qui a écrit un livre qui s'appelle « Dieu et l'Évangile ». Et je voulais vous le citer, si je retrouve ma feuille, qui est... On va retrouver la page, on va essayer plus vite... Alors, ici, John Piper qui dit « La question essentielle pour notre génération et pour chaque génération est la suivante. Si on vous offrait le ciel sans aucune souffrance physique, mais avec tous les amis que vous avez eus sur la terre, avec tout ce que vous aimez manger, tous les loisirs qui vous passionnent, toutes les beautés de la nature que vous n'avez jamais eu l'occasion d'admirer, tous les plaisirs physiques auxquels vous avez goûté, sans aucun conflit entre personnes ni aucun désastre naturel, seriez-vous satisfait? Seriez-vous satisfait de ce ciel si Jésus n'y était pas? » Comment est-ce que tu imagines le ciel? Oui, bonjour, j'arrive, j'ai réservé une chambre 1026 avec une table 12. C'est bon, c'est via Jésus-Christ que j'ai réservé, donc s'il vous plaît. Le ciel, ça va pas être ça. Le ciel, ça va être un moment extraordinaire où Jésus-Christ sera présent en personne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et où nous serons dans la joie de sa présence. Et c'est cette anticipation-là que nous sommes appelés à avoir. C'est comme « cherchez-moi ». R comme « recherchez le bien ». Dans Amos 5,14, il dit « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice. » La haine du mal est complètement liée à la recherche du bien, et c'est indispensable à se préparer à rencontrer Dieu. « Eux comme espérez en moi. » Espérez en moi, c'est ce que Amos nous propose lorsque, au chapitre 9, il nous explique, dans les versets 11 à 15, comme une sorte de bouquet final, que Dieu, malgré l'avertissement qu'il apporte à Israël, a aussi un message d'espérance. Chapitre 9, verset 11. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. » J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amos présente l'espoir de la reconstruction du peuple d'Israël. Amos présente l'espoir au verset 12 de la victoire d'Israël sur ses ennemis. Et Amos, au verset 13, annonce aussi le retour de la prospérité. Alors on dit que l'espoir fait vivre, certes, mais si cet espoir ne commence pas aujourd'hui, il n'a pas de sens. Aujourd'hui, Christ nous promet, et Dieu nous promet par Amos, que la prospérité qu'il veut nous donner déjà aujourd'hui, elle ne dépend pas de mes circonstances, elle ne dépend pas de mon abondance, de l'abondance qu'il y a dans mon frigo ou de mes galères. La prospérité réside dans la qualité de ma relation avec Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, Amos, c'est toi, c'est moi, mais Amos, c'est aussi une image de Jésus-Christ. Amos, c'est le berger qui vient parler au peuple d'Israël de l'amour de Dieu pour lui. Christ, c'est le berger qui est venu nous dire « Je suis venu pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses commencer une nouvelle vie, pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu et pour que tu puisses te préparer à rencontrer Dieu. » Et quand on réalise ça, qu'est-ce que ça provoque en nous? Ça provoque l'adoration. A comme adorer. Le plus grand conseil qu'Amos nous laisse, c'est de rester connecté avec Dieu. Dans Amos chapitre 4, verset 13, au chapitre 5, verset 8 et au chapitre 9, verset 5, il répète à trois reprises une prière de louange. Et sa prière de louange, elle affirme que son nom est l'Éternel. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Dieu est bon, il est plein de grâce envers nous et il sait ce qu'il fait. Amos, c'est le prophète qui nous invite à nous préparer à la rencontre du Dieu qui nous a créés. Et il nous créa, c'est comme chercher moi, R comme rechercher le bien, E comme espérer en moi et A comme adorer moi. Qu'on puisse vivre ça cette semaine avec ses pensées et avec plein de reconnaissance pour ce Dieu qui prend soin de nous, qui est notre bon berger. Amen.